France Culture.
Eau potable, aux sources d'une catastrophe sanitaire, écologique et économique. L'eau est un bien commun à préserver, une ressource vitale pour l'humanité. Et pourtant, elle est mise à mal par diverses pollutions et contaminations anthropiques. Elle devient un sujet de santé publique qui rythme de plus en plus l'actualité ces dernières années et qui nourrit, bien sûr, des inquiétudes du côté des citoyens qui ne demandent qu'à être mieux informés pour mieux agir, voire réagir. Alors, du robinet aux bouteilles, à quelle eau pouvons-nous encore boire? État des lieux, explications, solutions, défis à relever pour garantir à tous une ressource en eau potable. Nous en discutons avec nos quatre invités. Stéphane Mandard, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste de la rédaction Planète Science du journal Le Monde, notre partenaire. Et je précise pour nos auditeurs que vos articles et vos enquêtes sur le sujet, et pas que, bien sûr, sont à retrouver sur notre site ou sur...
Lemonde.fr, bien sûr.
Eh bien, évidemment. Avec nous également, Pauline Rousseau-Guetin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheure à l'EHESP, c'est l'École des hautes études en santé publique. Vous êtes spécialiste en santé, environnement, hydrologie et hydrogéologie. Et avec nous, Nathalie Carpel-Vell-Leitner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste des polluants de l'eau et des solutions de potabilisation, et donc des dépollutions de l'eau, on va le comprendre. Et enfin avec nous, Mickaël Derangeon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président d'Atlantique Eau, maître de conférences en neurosciences et physiologie à l'Université de Nantes, CNRS Inserm Institut du Thorax, et vous êtes co-auteur du livre « Sol urbain, environnement et santé, repenser les usages », un livre paru chez Quai. Bienvenue à toutes et à tous, vous en avez l'habitude, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang, Patricia Miura, Christine Anzano et notamment de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Alexandre Dang.
La qualité sanitaire de certaines eaux minérales n'est pas garantie. Après la découverte de traces de PFAS, ces polluants dits éternels, de la bactérie tristement connue E. coli ou encore de résidus de pesticides. Parmi les groupes ciblés, le géant Nestlé qui détient les marques Perrier ou Vittel. Il y a un mois déjà, le public découvrait que pour purifier son eau naturelle, l'industriel utilise en fait des traitements interdits.
Les gens pensent boire une eau meilleure que celle du robinet, qu'on leur vend très cher, très 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 cher, 100 fois plus cher, 200 fois plus cher, pour boire finalement la même eau qu'au robinet. Ouais, c'est pas bien.
France 3, Grand Est, c'était le 31 janvier 2024. Et oui, c'est pas bien. On va mesurer, en tout cas, l'histoire Nestlé, Nestlé Perrier, qui a rythmé aussi ces dernières années l'actualité. Stéphane Mandard, elle a été rythmée par des affaires comme celle-ci et d'autres relatives à l'eau potable en France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en donner, allez, un petit aperçu pour commencer l'émission?
Ça va être compliqué parce qu'un petit aperçu, ça risque de déborder largement le cadre de l'émission. Alors juste pour, si on fait un petit rappel, juste cette semaine, depuis lundi 5 mai, il y a environ 3000 habitants de l'agglomération de Saint-Louis, c'est dans le Haut-Rhin en Alsace, qui ne peuvent plus consommer de l'eau du robinet, pour les personnes sensibles, surtout pour les femmes enceintes,
oui,
et les enfants en bas âge, parce qu'on a retrouvé des doses trop importantes de PFAS, les fameux polluants éternels dont vos auditeurs ont beaucoup entendu parler,
oui,
cette année. Alors c'est sans doute dû à des couches de mousse anti-incendie qui ont été répandues autour de l'aéroport de Mulhouse-Bâle. C'est l'une des sources potentielles de ces PFAS. Vos auditeurs auront sans doute aussi découvert cette année, se seront familiarisés avec un nouveau trigramme, le TFA. Est-ce que vous savez?
Alors, TFA, acide trifluoroacétique, j'ai mes fiches quand même.
Bravo,
sous les yeux.
Bravo Aurélie. Oui, le TFA, en fait, c'est le plus petit des polluants éternels le plus répandu qu'on a retrouvé dans les fleuves européens, qu'on a trouvé dans les eaux en bouteille, notamment celle de Nestlé à Vittel, qu'on a trouvé dans le vin aussi très récemment à des niveaux très très importants. Donc il n'y a pas que l'eau qui est contaminée, mais tout l'environnement,
oui,
qui est contaminé. Donc une pollution chimique. Alors les pesticides évidemment. Hein. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un captage d'eau qui est fermé. Les habitants d'Auxerre ont appris en début d'année qui avait du chlorothalonil, donc un fongicide qui est interdit en 2019, qui a été retrouvé dans des doses de 20, jusqu'à 20 fois plus élevées que le seuil de qualité.
Parce que ça reste persistant,
on imagine. Parce que ça reste persistant, on en parlera dans l'émission. Oui. Alors il y a les pesticides, il y a les nitrates aussi, pour lesquels la France, pas plus tard qu'en février, a été renvoyée en justice par la Commission européenne, parce que depuis des années, il y a environ une centaine de points de distribution qui ne respectent pas les niveaux de nitrates. Les nitrates, ils sont issus des engrais, principalement utilisés par les activités agricoles. On peut parler du CVM également, la liste sera pas exhaustive. Le CVM, donc c'est le chlorure monomère de vinyle, donc qui est issu en fait là des canalisations en PVC qui avaient été installées pour remplacer les canalisations en plomb dans les années 70, donc un autre problème. Il y a des centaines de milliers de foyers en France, notamment dans les petits villages en fin de réseau qui ont été contaminés. Il y a eu des procès qui ont débuté dans le Loiret notamment le mois dernier. On pourrait parler aussi des micropolluants et des microplastiques qui sont présents évidemment dans les eaux en bouteille, mais aussi dans les eaux du robinet, puisque les microplastiques sont partout dans l'environnement. Et on pourrait aussi rajouter le tritium, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'habiter par une centrale nucléaire, puisque le tritium est un gaz, en tout cas, une substance radioactive qui est émise notamment par les rejets aqueux près des centrales nucléaires dans les fleuves. Donc il y a des gens qui ont la chance ou la malchance de boire un cocktail chimique de pesticides, de nitrates, de tritium et de microplastiques. Voilà, si je vous fais un petit éventail des différentes pollutions dont ce bien commun, dont l'eau, qui est quand même un élément vital, est aujourd'hui un déversoir.
C'est vrai que pour préserver cette ressource déjà mise à mal par le réchauffement climatique, faut-il le rappeler, il faut une qualité des sols, de l'air, de l'alimentation. Nous allons en parler. Alors, d'où vient l'eau que nous buvons du robinet aux eaux embouteillées? Je vais me tourner vers nos invités. Peut-être qu'on va commencer par mesdames. Pauline Rousseau-Guetin, est-ce que vous pouvez nous dire cette eau que nous buvons concrètement, d'où elle vient? Soit celle qui sort du robinet et celle que l'on achète en ces eaux embouteillées.
Alors, celle qui sort du robinet, elle va avoir pour principalement deux grands types d'origine. C'est soit les eaux souterraines, donc des eaux qui circulent dans plus ou moins profondément dans le sous-sol, et des eaux de surface. Et là, quand on derrière les eaux de surface, ça peut être aussi bien des grands lacs de montagne que des fleuves comme la Seine. Donc, on a toutes ces eaux qui peuvent être utilisées pour produire de l'eau potable. Alors, elles ne sont pas, on en reparlera plus tard, mais elles ne sont pas potables en tant que telles dans la nature, donc elles suivent des traitements avant d'arriver à notre robinet. Pour les eaux minérales, je devrais les appeler les eaux embouteillées,
oui,
ou généralement les eaux conditionnées, parce qu'elles ne sont pas que sous forme de bouteilles, elles peuvent être sous forme de sachets aussi dans certains départements français, notamment dans les Dômes. Pour les eaux conditionnées, on a trois types en fait d'eau. On a les eaux minérales naturelles et les eaux de source. Ces deux types d'eau ont une obligation, c'est d'être d'origine souterraine, donc elles viennent obligatoirement d'un aquifère, donc d'une nappe d'eau souterraine. Et on a les eaux rendues potables par traitement, qui est une catégorie qui est beaucoup moins connue, et qui, elle, peut venir soit d'eau souterraine, soit d'eau de surface.
Alors, Nathalie Carpel, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose à la fois sur ces provenances, mais aussi sur la liste de contaminations dont a commencé à nous parler Stéphane Mandard.
En fait, je vais parler des traitements que subissent justement ces ressources naturelles pour en arriver à l'eau du robinet. Je pense que c'est important de repartir justement de la source, quoi, en fait. Et je vais parler plus principalement des composés organiques. Je parlerai pas trop des nitrates. On pourra en rediscuter, mais je vais axer le déroulement des procédés qui sont appliqués pour l'élimination des composés organiques, c'est-à-dire des composés qui ont pour origine le monde vivant et qui contiennent du carbone d'origine animale ou végétale. Alors, en fait, comme disait Pauline, il y a deux types de ressources. Il y a les eaux de rivière qu'on appelle eaux de surface, et puis les eaux souterraines, donc qui subissent des traitements avant d'arriver à l'eau du robinet qu'on appelle, enfin que les législateurs appellent eau de consommation de eau destinée à la consommation humaine. Donc, si je commence par, par l'eau de rivière, c'est la, elle distribue à peu près 40% de la population, et bah, c'est l'eau la plus chargée et qui nécessite le plus possible, de, le plus de, d'étapes de travail dans la filière de potabilisation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit l'eau souterraine ou l'eau de rivière, le premier impératif, c'est la désinfection. Il faut absolument assurer une eau exempte de bactéries pathogènes, et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. C'est le premier danger, ce serait de laisser passer des bactéries pathogènes. Donc, cette étape de désinfection, on la met complètement à la fin de la filière. Donc, juste avant la distribution. Donc, on en reparlera, mais c'est, cette étape est, est cruciale. Dans une eau de rivière, en fait, on a tous vu, on a tous allé l'eau de rivière, c'est une eau qui est colorée et qui est chargée ben, en, en ce qu'on appelle la matière organique d'origine naturelle. C'est-à-dire, c'est des composés qui sont colorés, qui sont issus de la décomposition de végétaux, de rejets de stations d'épuration, mais qui cette eau de rivière, forcément, elle n'est pas polluante puisque bah, les poissons n'y survivraient pas. Donc oui. En elle-même, cette eau de rivière, elle contient pas une, en tout cas, qui est problématique pour l'environnement. Mais cette matière organique, donc qui crée de la couleur et des goûts, et qui serait susceptible de réagir avec le, la désinfection finale, ben, il faut absolument l'éliminer. Donc c'est l'étape vraiment incontournable aussi du traitement des eaux de rivière qu'on applique, c'est ce qu'on appelle la coagulation-flocculation.
D'accord.
En fait, cette matière qui est colorée pourrait pas s'éliminer par une simple filtration, donc on rajoute un réactif à base de sel de fer ou d'aluminium, et ce réactif a pour but de faire agglomérer les constituants dissous donc qui sont qui présentent cette coloration et cette et ce goût.
D'accord. Alors, nous allons parler, Nathalie Carpel, dans un instant, justement, de ce qu'on peut faire. On va continuer un petit peu cet état des lieux et description de à l'échelle de la France. Hein, bien sûr, Stéphane Mandard, la cartographie de la France a été établie. Il y a des zones plus contaminées que d'autres. Quelles sont les régions les plus touchées ?
Alors, ça dépend quel polluant on regarde. C'est vrai que souvent les cartes supportent avec les cartes des activités agricoles, puisque si on regarde les pesticides ou les nitrates, c'est des marqueurs d'activité agricole. Donc il y a des grandes zones comme ça, que ce soit les Pays de la Loire, la Bretagne évidemment, les Hauts-de-France aussi, les grandes plaines céréalières, la Beauce, donc l'Île-de-France aussi en partie. Là, si on prend par exemple le cas de la directive eau potable, pourquoi la France a été poursuivie par la Commission européenne, il y a 7 régions qui sont ciblées, dont Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est des régions surtout agricoles, évidemment. Après, il peut y avoir des pollutions qui sont plus localisées. Là, je parle des polluants éternels. Ça peut être proche de, justement, comme le cas dont je viens de parler dans le Haut-Rhin, près d'un aéroport où il y a eu un usage de mousse anti-incendie. Ça peut être proche de d'usines qui elles-mêmes soit produisent des polluants éternels. Là, on a le cas dans le Gard, notamment, avec cette usine qui est très connue, où il y a eu des taux très importants, une usine de BASF aussi en Normandie. Voilà, ça peut être des usines aussi qui utilisent ces produits dans leur production. On se souvient notamment du cas de Rumi, qui est la patrie des poêles Tefal, puisque Tefal, voilà, on sait qu'ils utilisent du téflon, donc ce vêtement antiadhésif qui contient beaucoup de PFAS, et donc il y a eu des rejets dans l'eau. Ils ont dû fermer plusieurs captages d'eau pour pouvoir continuer à boire une eau en dérivant et en mettant des traitements justement très 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 coûteux. Mais voilà, à Paris également, on retrouve des pollutions qui sont liées à des activités industrielles en amont, qui vont justement se déverser dans les rivières, dans les fleuves, et ensuite se retrouver à l'eau du robinet. Donc c'est une cartographie à la fois qui superpose l'activité agricole, mais aussi qui dépend d'activités industrielles ou d'autres facteurs qui sont liés évidemment à l'activité anthropique.
Donc une contamination générale avec des régions plus touchées. Michael Dorangeon, donc parmi les plus touchées, il y a Paris et la Loire-Atlantique. Vous pouvez nous en parler parce que justement, en tant que vice-président d'un des syndicats chargés de ces questions de l'eau et de qualité de l'eau, donc Atlantique Eau, et en tant qu'élu aussi d'une petite commune, vous avez cette problématique à gérer concrètement.
Oui, concrètement, on a une contamination qui est clairement généralisée par tous les polluants qu'on a évoqués. Je pense qu'on en a oublié une famille de polluants importante, c'est les médicaments et les métabolites de médicaments qui sont réellement aussi une problématique dans les eaux de surface en Loire-Atlantique, en tout cas.
Oui, on peut mentionner aussi les produits cosmétiques, les produits ménagers qu'on utilise. La liste est longue.
Oui, tout à fait. Et effectivement, on a une pollution qui est assez généralisée. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est que en fonction des ARS, on n'a pas les mêmes quantités de molécules qui sont recherchées. Et donc, on peut avoir l'impression que certaines régions sont pas trop exposées. En fait, c'est parfois parce que les molécules sont pas recherchées et parce qu'il n'y a pas toujours la transparence nécessaire pour alerter les citoyens sur l'ampleur de la contamination. Donc, c'est vraiment une difficulté qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, Atlantico, le syndicat dans lequel j'ai une vice-présidence, notre politique est claire, c'est la transparence. Donc, à chaque fois qu'on identifie des molécules, on alerte la population, non pas pour affoler la population, mais par transparence, et pour que chaque personne, chaque consommateur, quand il tourne son robinet, il se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on lui cache, et chaque personne, en fonction aussi de l'état de la personne, si c'est une femme enceinte, si c'est un enfant, puisse prendre des décisions éclairées sur son choix de consommation en termes d'eau.
Sachant que Atlantique Eau, cela concerne 148 communes, je crois, environ 550 000 consommateurs. Je pense avoir les bons chiffres, Michel Durangeon.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est 550 000 consommateurs environ desservis par le syndicat.
Pauline Rousseau-Guetin, avant de se poser tous la question comment en est-on arrivé là aussi, peut-être peut-on parler de santé publique aussi. Quels sont les effets possibles sur la santé de ces pollutions que l'on détecte aujourd'hui, à la fois celle de l'eau du robinet et celle des eaux en bouteille?
Je voulais déjà revenir sur ce qu'on appelle la définition d'une eau potable.
Oui.
Donc en fait, une eau potable, en fait, c'est une eau qui respecte des critères de qualité. Et en France, nos critères de qualité donc sont définis par le ministère de la Santé, et ces paramètres sont principalement définis par l'OMS. Et puis après, il y a d'autres qui ont été ajoutés par l'Union européenne, et on en ajoute aussi au niveau national. Et donc, une eau potable, c'est une eau qui respecte ces critères-là. Et donc, derrière, on a des eaux qui vont être dites soit non conformes, soit conformes, en fonction de si elles respectent ou pas ces critères. Et donc, effectivement, il y a des valeurs dans ces recommandations qui sont des valeurs sanitaires dans le sens où elles ont été établies sur des données sanitaires d'impact sur la santé. Et on a d'autres paramètres sur lesquels on a des valeurs réglementaires, mais qui ne sont pas issues de données sanitaires, par la plupart du temps, malheureusement, manque de données sanitaires. Donc, ça me permet de faire le lien sur la question posée qui était l'effet sur la santé.
Oui.
On a justement, par rapport à ces contaminations et qu'on vient de justement pointer multiples, donc on est sur des cas de multi-exposition, et donc arriver à faire le lien entre une molécule et une issue de santé, une pathologie, est très compliqué. On voit des effets sur la santé de certaines molécules, mais pas nécessairement en lien avec une consommation d'eau. Donc, par exemple, on a très clairement des liens entre des expositions aux pesticides et des liens sur les cancers, mais c'est pas nécessairement par les pesticides consommés via l'eau potable. On est exposé à ces molécules dans l'air, chez nous aussi, parce qu'on en utilise chez nous. Donc, c'est qu'un exemple. Mais, donc,
dans l'alimentation aussi, Pauline. Je crois que, et là, Michael Durangeon rejoindrait ce que je vais dire, c'est dans un kilo de nourriture, on a jusqu'à 500 000 fois plus de polluants que dans un litre d'eau. Là aussi, effectivement, il faut considérer quand même tout ça.
Tout à fait. Donc, effectivement, C'était dans la dernière étude EAT, donc c'est les études pour l'alimentation totale qui sont faites par l'ANSES. Donc la dernière est de, je vais me tromper dans les dates, de 2017 je crois, et la prochaine, là, le AT3 est en cours. Mais dans la dernière, il avait été montré qu'effectivement, l'eau ne représentait, alors pour les pesticides, et je ne parle que pour les pesticides, hein, représentait 5% de la part totale de notre exposition via l'alimentation, en fait. Donc tout le reste était amené par notre alimentation. Les 95 autres % étaient amenés par l'alimentation.
Malgré tout, il faut s'inquiéter de cette non-conformité des eaux, parce qu'il peut y avoir ou des conséquences, peut-être qu'on ne parvient pas à considérer aujourd'hui. Nathalie Carpel, quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors je précise qu'on parle de 10 millions de Français pour lesquels la qualité de l'eau ne serait pas garantie aujourd'hui, je crois.
En fait, la difficulté, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai peut-être été un petit peu longue en introduction. La difficulté, c'est qu'on est confronté à devoir éliminer des composés, donc des constituants qui sont néfastes pour la santé, à des concentrations qui sont 1000 fois plus faibles que les autres composés qui sont présents dans ces eaux et qui, elles, sont toxiques. Et c'est la difficulté du traiteur d'eau, c'est d'essayer de cibler ces micropolluants, donc qui sont présents à l'état de trace, hein, c'est inférieur au gramme pour ben, je minimise pas la dangerosité, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le...
Alors, on a quelques petits problèmes de coupure dans la connexion avec vous, Nathalie Carpel. Je pense que je vais laisser notre technicien Alexandre Dang essayer de régler la chose et on revient vers vous au plus vite, hein, bien évidemment. Concrètement, est-ce qu'on peut, Stéphane Mandard, se dire, voilà... On en est arrivé à une situation telle, quelles sont les questions qui se posent? Est-ce que c'est des questions de surveillance, de moyens de surveillance, de réglementation? Comment vous percevez les choses?
Mais il y a plein de questions. Là, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont un petit peu dos au mur. On peut prendre l'exemple du chlorothalonil, par exemple, donc, qui était un catafongicide qui a été interdit en 2020 et de stade ses métabolites, c'est-à-dire que les produits de sa dégradation, quand on avait commencé à les rechercher, c'est ce que disait Michael Desrogeaux, quand on cherche, on trouve, en fait. Et donc, quand on les trouve, si on applique les seuils, il y avait environ un tiers de la population qui était exposée à une eau qui ne respectait pas, justement, les normes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place des moyens de traitement qui sont très très coûteux, que les petits syndicats d'eau n'ont pas les moyens de mettre en place? Donc, il y a un problème de réglementation. Là, ce qui s'est passé, c'est que ce métabolite qui a été considéré comme pertinent, l'ANSES l'a réévalué sur la base des informations qui ont été délivrées par le fabricant. Ils ont décidé que finalement, il n'était plus aussi dangereux que ça pour la santé. Donc, ils l'ont déclassé. Donc, par un coup de baguette magique, on a fait disparaître finalement
un problème.
Un problème, voilà, en changeant simplement la réglementation, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire face à toutes ces menaces, toutes ces dégradations généralisées sur plusieurs fronts, de plusieurs polluants, certains étant réglementés, d'autres pas encore réglementés. La réglementation évolue, les réglementations ne sont pas les mêmes selon les pays. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, sur les PFAS, sur le TFA, qui prennent des seuils qui sont de l'ordre de 20 à 30 fois plus protecteurs par exemple les Pays-Bas, voilà, pour ne prendre un exemple européen sur le TFA, le seuil, il est de 2 nanogrammes. En France, il est de 60 nanogrammes par litre d'eau simplement pour le TFA, pour prendre cet exemple. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'être... Il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais de mesurer qu'il y a une dégradation qui est généralisée de toutes les ressources d'eau potable, que ce soit les rivières, les nappes souterraines. On le voit avec le... J'ai très peu parlé du cas de Nestlé, de la source Perrier, d'une autre source de contamination qui sont les bactéries. Voilà, avec le réchauffement climatique, avec les épisodes de sécheresse, il y a de moins en moins... Les nappes souterraines diminuent, donc la pollution est moins diluée.
Et oui.
Donc c'est des problèmes qui vont ne faire que s'intensifier et s'amplifier dans le futur.
Et comme vous disiez, on recherche certains composants composés ou composants, mais il y en a d'autres aussi qu'on découvre. Donc on est face à un iceberg. C'est un peu votre expression. On vous a retrouvé, Nathalie Carpel. Allez-y.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, les progrès analytiques ont été énormes ces 10 ou 20 dernières années, ce qui fait qu'effectivement, on détecte de plus en plus de composés pour lesquels on se pose des questions et à des concentrations de plus en plus faibles. Et la difficulté, c'est qu'il faut arriver à éliminer ces composés parmi des composés qui sont, eux, à des concentrations peut-être 1000 fois supérieures et qui, eux, ne présentent pas de toxicité. Donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre en œuvre des procédés qui vont éliminer, dont l'objectif c'est d'éliminer ces micropolluants, mais qui forcément vont aussi éliminer les composés qui sont présents à plus forte concentration. Et donc on va dépenser une énergie importante pour éliminer la totalité finalement des composés, à la fois ceux qui sont nocifs et ceux qui sont pas problématiques, quoi. Et c'est ça la difficulté. On aurait à éliminer des micropolluants dans une eau, uniquement de l'eau, dans laquelle il n'y aurait que les micropolluants. La question serait beaucoup plus simple, puisque les procédés à mettre en œuvre seraient beaucoup moins coûteux. Sauf que là, encore une fois, on est obligé de chercher la trace dans un ensemble de composés qui, eux, sont d'origine naturelle, végétale, et qui sont pas nocifs du tout. C'est comme, par exemple, quand vous mettez votre sachet de thé dans votre eau, bah, vous cherchez pas à éliminer ce que vous venez d'introduire, quoi. Et la difficulté, c'est ça. Quand on met en œuvre, par exemple, un procédé de membrane qui élimine, a visé d'éliminer les micropolluants, et ben, la membrane, elle retient aussi tous les composés qui sont pas des polluants, et ça rentre dans le coup de la membrane, puisque la membrane va falloir la nettoyer, et va falloir la nettoyer non seulement à cause des micropolluants qu'elle aura retenus, mais aussi à cause de tout le reste qui va la colmater et qui va présenter un coût dans le procédé.
Alors, nous aurons l'occasion de parler aussi des solutions dans la deuxième partie d'émission, mais là, je vois que Stéphane Mandard veut réagir tout de suite à ce que vous dites, hein, Nathalie.
J'avais une question à vous poser en tant que journaliste et qui s'intéresse au sujet. Vous sous-entendez que ces traitements vont appauvrir la qualité des eaux, justement, quand on applique trop de traitements, notamment les eaux minérales naturelles, dites naturelles?
Sur les eaux naturelles, les eaux minérales, c'est vraiment pas mon domaine. Hein. Ce que je veux dire, c'est que sur les eaux, donc eaux du robinet qui sont produites à partir de la ressource naturelle, il y a quelques années, tous ces composés, effectivement, on les voyait pas parce que nos capacités analytiques étaient limitées. Et donc on n'avait pas à ajouter ces procédés complémentaires par rapport à la filière classique.
Bien sûr, il faut se réjouir que la science fasse des progrès et puisse maintenant déterminer et repérer comme ça des micropolluants dont on ignorait l'existence jusqu'à maintenant, non? Vous êtes d'accord là-dessus?
Voilà, il faut s'en réjouir, bien sûr. Mais la difficulté, c'est qu'encore une fois, dans tous les composés qu'on arrive à analyser maintenant par des techniques qu'on appelle la chromatographie et la spectrométrie de masse, dans une eau potable, on va avoir plus de 1000 composés qu'on va mettre en évidence. Et la difficulté, c'est dans ces 1000 composés, bah, lesquels sont réellement des micropolluants.
Alors, je me tourne vers Pauline Rousseau-Guetin à ce niveau de discussion, justement. On n'a pas précisé quand même qu'il y a des réglementations, hein, donc bien sûr, qui s'appliquent, mais qu'elles sont différentes pour l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et ensuite nous donnerons la parole à Michaël Derangeon.
Oui, alors... l'eau du robinet, elle a... globalement, un plus d'une quarantaine de paramètres de qualité qu'elle doit respecter. Et donc, c'est des paramètres, effectivement, au-dessus duquel on considère qu'elle n'est pas conforme et qu'elle peut potentiellement avoir un impact sur la santé en fonction des paramètres. Alors, 40, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, on a une ligne qui s'appelle pesticides. Et derrière cette ligne pesticides, on a effectivement plusieurs centaines de molécules qui vont être suivies. Et je rejoins ce que disait Monsieur Dorangeau, effectivement, les listes ne sont pas harmonisées au niveau national sur ces suivis de pesticides. Et après, ce qui va jouer aussi, ce qui est réglementé, ça va être la surveillance. Donc, d'abord, on a une surveillance qui doit être faite par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau, donc en d'autres termes, le producteur d'eau, qui lui a une obligation d'autosurveillance, de s'assurer que ce qu'il est en train de produire, c'est bien de l'eau potable et pas autre chose. Et derrière, on a aussi le contrôle par les agences régionales de santé, donc organisées par les agences régionales de santé, donc qui sont le contrôle sanitaire. Et là, la fréquence de ces contrôles, pour le coup, par le contrôle sanitaire, varie en fonction du nombre la population desservie ou le volume d'eau produite. Donc ça, c'est une réglementation, c'est une arrêté. Et là, cet arrêté-là a eu une grosse modification suite à la publication de la directive eau potable de 2020. Et donc, avec tous les arrêtés d'application qui ont découlé en 2022 et en 2023. Et donc, on a des nouveaux paramètres qui sont arrivés, notamment les PFAS, et des nouvelles obligations aussi qui vont arriver d'ici 2026.
Donc, il faudrait peut-être une harmonisation du nombre de contrôles sanitaires entre eau potable et eau en bouteille, non ?
Alors, sur l'eau en bouteille, là, pour le coup, on a toutes les eaux embouteillées ne sont pas traitées de la même manière.
D'accord.
Les eaux de source et les eaux rendues traitables par traitement doivent respecter les mêmes critères de qualité que les eaux du robinet. Exactement les mêmes. Les eaux minérales naturelles ne respectent pas nécessairement, en tout cas ne doivent pas respecter ces éléments-là, même si on suit tout ce qui est pesticides, PFAS, etc. dans le suivi, et qu'elles doivent quand même, entre guillemets, respecter. C'est en fait, dans la réglementation, initialement, on disait les eaux minérales naturelles, elles sont naturellement protégées. Ces éléments-là, on ne doit pas les retrouver. Donc, au final, le suivi qui est fait sur ces eaux minérales naturelles, la réglementation, c'est normalement, on a zéro pesticide, zéro PFAS, zéro rien d'origine anthropique, puisqu'elles sont naturellement protégées. Et par contre, en termes de fréquence de contrôle par l'ARS, on a entre 8 et 18 contrôles sanitaires faits par l'ARS. Par contre, il y a toujours l'autocontrôle qui est une obligation. L'autosurveillance.
D'accord.
Un autocontrôle qui a montré ses limites dans le cas de l'affaire de la fraude aux eaux minérales, puisque effectivement une eau minérale naturelle, par essence, doit être normalement protégée naturellement de toute forme de contamination. Et donc on a vu qu'il y avait eu des tricheries,
des
fraude, des fils qui avaient été mis en place. Et que les autorités de contrôle n'avaient pas justement pu voir ces mises en place de filtres interdits, et que donc ça pose la question de la réglementation et de toutes ces failles de réglementation dont on verra peut-être dans la deuxième partie.
Alors, je vous propose, avant d'attaquer la deuxième partie, d'écouter cet extrait d'un documentaire diffusé sur Public Sénat le 26 avril 2025, où on entend justement la journaliste Marie Dupin.
Nestlé, ils ont peur de cette enquête, donc ils vont voir tout de suite Bercy, le ministère de l'économie, en disant voilà, on a des filtres interdits dans nos usines, c'est pas réglementaire, et si on n'utilise pas ces filtres, on a des problèmes de pollution de nos eaux, donc on pourra plus vendre nos eaux, donc donnez-nous du temps, donnez-nous des moyens, et s'il vous plaît, changez la réglementation pour qu'on puisse continuer à utiliser certains filtres, pour qu'on puisse continuer à vendre nos eaux.
À l'issue du rendez-vous, le gouvernement lance une grande enquête sur l'ensemble des minéraliers.
Si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais on va aller lancer une enquête qui va aller mobiliser, faire 180 contrôles ou je ne sais combien, enfin c'est vraiment énorme. Donc une grande opération de contrôle des eaux minérales qui aboutira à un rapport 8 mois plus tard, et pendant ces 8 mois, il ne s'est rien passé.
Pauline Rousseau-Guetin, je me tourne vers vous. Alors bon, c'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous avez été auditionnée dans le cadre de la commission d'enquête menée sur cette question-là en commission sénatoriale sur la fraude aux eaux, qui est donc chargée, cette commission, de faire la lumière sur ce qui est devenu finalement un scandale. Vous avez peut-être envie de réagir ou de compléter ce que vous étiez en train de dire précédemment.
Oui, non, justement, pour moi, effectivement, alors la problématique de l'autosurveillance, c'est que c'est une autosurveillance et que ça manque de transparence, effectivement, puisque cette autosurveillance, elle reste aux mains des producteurs, aussi bien des minéraliers que des personnes, enfin, pour le réseau d'eau publique, en fait. Donc, c'est-à-dire que si jamais ils observent une défaillance, alors, l'avantage des personnes publiques, enfin des personnes publiques dans le sens eau du robinet, ils ont le droit de traiter, donc ils vont modifier leur traitement en fonction des non-conformités qu'ils vont trouver. Les minéraliers n'ont pas le droit de traiter. Donc normalement, ils devraient arrêter leur chaîne de prod à partir du moment où ils observent une non-conformité sur leur autosurveillance. Mais effectivement, et du coup, derrière, le contrôle des ARS est relativement faible, mais effectivement, quand ils ont les moyens de faire une inspection et d'aller effectivement regarder partout dans une usine comment où passe l'eau, comment se fait les chemins, etc. Ils arrivent à trouver mais des filtres effectivement qui pour certains étaient quand même cachés dans les captages. Donc mieux vaut dire que aucun inspecteur ne peut trouver ça.
Eh oui, Stéphane Mandard et puis après rapidement Michel Derangeon.
Pour rebondir sur l'affaire Nestlé que je connais assez bien, ce qui est assez remarquable dans cette histoire, c'est que d'une part, la Direction générale de la santé avait recommandé très tôt au gouvernement justement de stopper, d'arrêter, de puiser, de forer pour Perrier dans le Gard et pour Villers dans les Vosges pour le groupe Nestlé.
Un an avant le scandale.
Voilà, constatant évidemment que la pureté originelle de la source n'était plus garantie. Ce que aujourd'hui Nestlé Waters, qui a été auditionné, les différents directeurs des usines, mais les différents directeurs qui sont succédés à la tête de Nestlé Waters et Nestlé France et Monde ont toujours nié. Ils ont toujours, et aujourd'hui encore, ils continuent à dire que c'est pas une question de pollution de la source, que la source est pure, qu'elle n'est pas contaminée, que c'est lié à des intempéries, à des déviations sporadiques, il y a des épisodes Cévenol par exemple dans le Gard avec les intempéries. Le préfet du Gard doit rendre dans quelques heures une décision très importante, à savoir est-ce qu'il autorise ou non Perrier à continuer à exploiter cette source qui est contaminée, qui est polluée à la source, avec une pression locale très forte, puisqu'il y a une question d'emploi à la clé, avec des milliers d'emplois de l'usine, et une pression aussi politique, puisqu'on sait que l'Élysée est intervenue pour permettre à Nestlé de continuer à tricher en utilisant une microfiltration des filtres à 0,2 microns qui n'étaient pas légaux au niveau européen, avec toujours cette explication complètement abracadabrantesque de Nestlé qui te dit on utilise des filtres, mais ce n'est pas pour dépolluer l'eau, parce que s'ils disent que c'est pour dépolluer l'eau, c'est reconnaître finalement que leurs sources sont contaminées. Vous voyez, on se mord un petit peu la queue dans cette affaire, mais c'est ce qui est absolument fou, c'est qu'à aucun moment on n'a demandé à Perrier d'arrêter de commercialiser une eau
Sous
une mauvaise appellation qui est contaminée à la source.
Oui, parce qu'il y a des questions de gros sous, on va dire, sous ces injonctions. Michel Derangeon.
Oui, j'aurais voulu apporter quelques compléments quand même, parce que même si les polluants dans l'eau sont à des concentrations très faibles, on a quand même des études qui sont extrêmement inquiétantes. Je pense à deux études qui ont été faites par l'INSERM et le CNRS, qui ont été publiées il y a maintenant 5 ans, qui montrent que déjà la norme de l'eau potable, quand vous donnez à des souris pendant 6 à 9 mois, 3 antifongiques que vous retrouvez le plus dans les petits pots pour bébés à des doses qui peuvent être à 200 à 500 000 fois supérieures à ce que vous avez dans l'eau, ces 3 antifongiques sont suffisants pour multiplier par 20 les plaques d'Alzheimer dans le cerveau des souris et sont suffisants pour modifier le neurodéveloppement des petites souris qui sont nées à partir de mamans qui ont été abreuvées avec cette eau. Vous avez d'autres études, par exemple épidémiologique au Danemark, où vous avez des registres sur les cancers pédiatriques qui sont exhaustifs. Ces études nous montrent que quand vous avez des taux de nitrate entre 25 et 50, vous avez 3 fois plus de cancers du cerveau dans ces zones que dans les zones où vous êtes entre 0 et 25. Et vous avez aussi, par exemple, les études du docteur Sylvain Chameau, qui vous montrent que quand vous êtes aussi dans des zones fortement concentrées en nitrate, mais qui respectent la réglementation, vous avez des possibilités éviter de développer de l'hypothyroïdisme chez les enfants. Donc on parle d'impacts qui sont quand même majeurs pour la santé des individus. Il faut pas avoir peur à outrance sur ces concentrations de polluants, mais vous voyez bien que ces polluants, déjà la norme de l'eau potable, il y a des indices qui nous montrent que ça peut avoir des effets très forts pour la santé. Ensuite, je veux rajouter un point qui est essentiel. En tant que producteur d'eau, on a la responsabilité pénale. On nous dit vous devez faire de l'autosurveillance, mais on autorise sur le captage des molécules pour lesquelles on n'a aucune capacité analytique d'aller les mesurer. Je vais prendre un exemple très concret. On a un captage dans le secteur où j'ai la responsabilité pénale de la qualité de l'eau potable. On autorise 49 molécules sur le captage. 49 pesticides sont autorisés. Ils génèrent, écoutez bien, 396 métabolites connus. Sur les 396 métabolites connus, on n'est pas même pas capable de rechercher 10. Et si vous prenez juste par exemple le tébuconazole, à lui tout seul, il peut générer plus de 200 métabolites. Donc vous faites 49 x 200, vous imaginez le nombre de molécules. Et on est aveugle à cette pollution. On n'a pas la possibilité d'aller les mesurer. Et quand vous arrivez à trouver la possibilité de les mesurer, parce qu'on nous on développe, on va payer pour développer des dosages, etc., qui finalement ne devrait pas être notre responsabilité, quand vous dosez, que vous allez les chercher, vous alertez les autorités, la réponse est « ah bah faut pas trop le dire, vous allez faire peur, et puis on n'a pas de solution, et puis on ne sait pas parce qu'on n'a pas de valeur sanitaire, donc attendons 3-4 ans d'avoir les valeurs sanitaires pour ensuite alerter la population ». Eh bien ça, c'est totalement inacceptable. Et quand vous donnez l'information, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes un lanceur d'alerte. Non, nous sommes des élus responsables, honnêtes, et on assume les missions pour lesquelles on a été élu. Et donc là, on a un vrai problème de santé publique autour de la gestion des eaux. Et quand vous en êtes à constater que des gens qui produisent de l'eau minérale dans des ressources qui sont extrêmement protégées, dans lesquelles on est dans le cadre du droit privé, mmh. lequel on peut contractualiser avec les agriculteurs, des zones où vous avez des eaux qui sont très profondes, qui va expliquer leur qualité. Et que même ces eaux-là sont polluées. Imaginez l'ampleur de la pollution qu'on a dans nos masses d'eau en France.
Et oui, on aura compris, Michaël de Rangeon, et ces questions de santé, ces questions aussi importantes de dire il faut informer, et informer aussi probablement pour mieux conscientiser et donner à comprendre hein, qu'il y a une responsabilité de certains, mais aussi partagée. Nous allons en parler dans cette seconde partie d'émission dans un instant, et aussi, bien sûr, parler des solutions, parce qu'il ne s'agit pas... d'affoler, mais d'informer, comme on disait, et puis aussi de parler de ce qui est possible de faire.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'est Au bord de l'eau de Rémi Geoffroy Trio et c'est le choix musical de Pauline Rousseau-Guetin. Et nous poursuivons bien sûr notre émission de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous nous intéressons aux eaux potables du robinet aux bouteilles, histoire d'une catastrophe sanitaire, écologique et économique en cours. Une émission en partenariat avec les pages Planète du journal Le Monde. Avec nous Stéphane Mandard, journaliste au Monde, Pauline Rousseau-Guetin, enseignante-chercheur à l'École des hautes études en santé publique, Nathalie Karpel-Welt-Leitner, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des polluants de l'eau et des solutions de potabilisation. Et puis Michaël de Rangeon, vice-président d'Atlantique Eau, maître de conférences en neurosciences et physiologie à l'Université de Nantes, CNRS Inserm Institut du Thorax. Et puis co-auteur du livre « Sol urbain, environnement et santé, repenser les usages », un livre paru chez Quai.
Dans la Vienne, à Cuon, les taux en chlorothalonil dépassent le seuil de sécurité sanitaire. L'eau est donc impropre à la consommation humaine. Pour la première fois en France, des forages d'eau ont dû être fermés.
C'est forcément une décision radicale et potentiellement difficile parce qu'elle donne un signal relativement fort de dégradation de la qualité de l'eau, mais c'était la seule solution immédiate.
De lourdes restrictions d'eau ont dû être mises en place. Jean est un agriculteur irrigant. Un tiers de son exploitation est biologique, deux tiers en agriculture raisonnée, avec des pesticides donc, mais moins qu'en conventionnel.
J'ai converti il y a quelques années ma ferme en agriculture biologique. J'avais pour projet de continuer la conversion. Vu le contexte actuellement, j'envisage plutôt après les moissons de tout repasser en conventionnel. Car sans irrigation dans le secteur, il n'y a pas d'agriculture propre, c'est pas possible.
La dépendance aux pesticides, technique sécurisante, est dominante en France. Mais les mentalités évoluent sur leur dangerosité.
La responsabilité des agriculteurs sur les taux de chlorothalonil, on ne peut pas la nier. C'est nous qui les avons épandus. C'est quelque chose qui nous travaille, car on ne travaille pas pour polluer l'eau, on ne travaille pas pour empoisonner les gens. Nous, on nous donne un produit qui est accepté par les autorités, qui est vendu par les coopératives. On fait confiance.
Extrait de reportage diffusé sur France 24 le 26 juillet 2023. Parmi les solutions, puisque nous sommes sur ce terrain-là dorénavant, travailler avec les agriculteurs, les aider aussi hein, pour pouvoir évoluer, transformer ce passé de certains intrants polluants. Michael Derangeon, peut-être sur cette question, parce que je crois que dans justement votre secteur et la Loire-Atlantique, vous travaillez avec certains agriculteurs.
On essaie de travailler effectivement avec certains agriculteurs et pour nous la solution est très simple. Il faut des règles simples. Donc sur les aires de captage qui vont être définies par des hydrogéologues, on demande une interdiction des pesticides. Et en parallèle, on demande de nous aider, de donner les outils juridiques, comme les mêmes outils qu'ont les minéraliers, pour pouvoir subventionner directement l'agriculture, pour pouvoir subventionner le changement de pratique qui est nécessaire pour obtenir des eaux de qualité. Donc c'est assez simple, on demande de changer les outils législatifs de telle façon de nous permettre de directement soutenir l'agriculture. Et ça, c'est une solution qui est systémique. C'est-à-dire que si notre eau est polluée, c'est avant tout parce que notre alimentation est polluée dans la façon dont on la produit. Et ce qui est extrêmement important de rappeler, c'est qu'on a des études épidémiologiques qui démontrent des liens entre les pesticides et les maladies, comme on a dit tout à l'heure. Mais on a aussi des études comme Nutrinet qui montrent que les gens qui consomment de l'alimentation bio ont visiblement des maladies chroniques, des risques de développer des maladies chroniques qui sont extrêmement diminués. Et enfin, on a une reconnaissance de l'État des risques des pesticides, puisqu'aujourd'hui, on a un fonds qui indemnise les agriculteurs quand ils sont malades à cause des pesticides, on reconnaît, et qui indemnise les enfants d'agriculteurs quand ils ont des cancers, des malformations. Donc aujourd'hui, on a une reconnaissance, on a une connaissance scientifique qui fait consensus sur les risques des pesticides et la santé, et les solutions sont simples, soutenir l'agriculture de telle façon qu'elle puisse vivre dignement de son travail, oui, et que sur les aires de captage, cette agriculture soit compatible avec la qualité sanitaire de l'eau dans un objectif clair, protéger la santé humaine et donner aux générations futures une eau qui va être de qualité. Parce que ce qui nous arrive dans certains de nos secteurs, c'est qu'on a fermé des captages. Et c'est fermé pour des dizaines d'années, puisque les molécules qu'on a trouvées, on est incapable de les traiter. On vient de mettre en place deux usines à Nord-sur-Erdre, à Masserac. On en est à presque 11 millions d'euros. Nos usines ne sont pas sorties de terre, que déjà on avait identifié des polluants, que les usines avec les dernières technologies ne sont pas capables de traiter. Oui. Et même l'osmose ou la membranaire qu'on a expliqué tout à l'heure, on a identifié des molécules que ces techniques-là arrivent avec difficulté à éliminer, avec un rendement d'à peine 50%. Donc on est vraiment arrivé à une limite dans lequel il faut agir avec rapidité si on a un minimum de respect pour les générations futures.
Alors, sanctuariser les zones de captage, effectivement, vous disiez que des captages d'eau avaient été abandonnés entre 1980 et 2019. Je crois qu'on compte 12 500 captages d'eau potable abandonnés. Stéphane Mandard, vous vouliez réagir rapidement. Non,
justement, par rapport à ce chiffre que vous venez de donner, Aurélie, effectivement, c'est un rapport important de 600 pages, de 3 inspections générales issues de l'écologie, de l'agriculture et de la santé qui ont fait un état des lieux assez cataclysmique, justement de l'absence de réponse politique pour protéger ces captages. Vous le disiez, il y en a 12 500 qui ont été fermés seulement à cause des pesticides en 40 ans. Il y a une feuille de route aujourd'hui qui a été dévoilée il y a quelques semaines par le ministère de la Transition écologique qui est vraiment très très faible, puisqu'il n'y a que 1500 captages qui seraient sécurisés, protégés. Il y a une proposition de loi qui allait dans le sens de ce que prenait Michael Derangeon, à savoir on interdit tout simplement l'usage de pesticides, et notamment les plus dangereux, dans les aires de captage, elle n'a pas du tout été suivie d'effet. Au contraire, aujourd'hui, le gouvernement, il y a une proposition de loi qui émane de une proposition de loi Duplon, d'un député LR, qui est soutenue par le gouvernement. Qu'est-ce que dit cette proposition de loi? Elle veut réautoriser certains néonicotinoïdes, donc qui sont des tueurs d'abeilles dangereux pour la santé. Elle veut finalement enlever le pouvoir à l'ANSES d'autoriser ou de non autoriser les pesticides, donner plus de pouvoir au ministère de l'Agriculture. Elle voudrait aussi permettre les épandages par drone. On a toute une série de reculs sur les pesticides, alors que les scientifiques et les médecins alertent évidemment sur toutes les preuves scientifiques de dangerosité pour la santé, et qu'effectivement aider les agriculteurs à passer en agroécologie, c'est la meilleure façon de prévenir les pollutions à la source. C'est ce que fait notamment Haute-Paris, ce qu'essaie de faire Haute-Paris depuis quelques années pour protéger les captages autour de la région parisienne. Ils ont constaté que là où ils avaient pu financer les agriculteurs à passer en agroécologie, il y avait moins de polluants. C'est diminuer la pollution dans les nappes d'eau. Donc c'est très concret comme résultat. Ah oui, plutôt que d'en faire des millions dans des réponses de traitement, voire des milliards, comme on voudrait faire avec l'osmose inverse au niveau du Cédif, au niveau de l'Île-de-France.
En sachant, il faut le rappeler, qu'il n'y a pas que les pesticides, il n'y a pas qu'une catégorie de citoyens à cibler, en tout cas, qu'il y a vraiment toutes ces pollutions multiples. Et il faut vraiment garder ça en tête. Pauline Rousseau-Guetin, avant de justement d'aller voir les solutions du côté de Nathalie Carpel, Pauline, de votre côté, comment voyez-vous les solutions possibles justement pour retrouver quand même une plus grande sécurité et ne pas regarder cette eau qui coule du robinet en se posant la question, est-ce que je dois mettre des filtres ou pas, d'ailleurs qui ne doivent pas être forcément très opérants?
En fait, je rejoins clairement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, la protection des captages et surtout des aires d'alimentation de captage, en fait, est assez inefficiente en France. Et en fait, pendant longtemps, on a protégé on a fait des périmètres de captage dans lesquels, effectivement, des pesticides et de l'épandage de certaines molécules ou même de certaines activités étaient autorisés. Et donc là, on passe, et ces zones, ces périmètres, ils sont tout petits par rapport à l'aire d'alimentation du réel du captage, et qui est en fait toute sa source de contamination. Donc on protégeait déjà pas très bien, et en plus qu'une toute petite partie de cette zone potentiellement contaminante. Et donc, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits, mais alors effectivement... Il y a ce qui a été pointé par Haute-Paris. Il y a d'autres territoires, et pas nécessairement en lien avec des captages, mais voilà, simplement pour récupérer aussi la qualité de l'eau et la qualité de l'environnement, des actions qui sont faites par des collectivités pour accompagner des agriculteurs dans des changements de pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors j'ai parlé des ressources souterraines, elles ne sont pas contaminées du jour au lendemain. Les concentrations qu'on mesure aujourd'hui, et notamment certaines molécules dont on a parlé là, sont effectivement des molécules qui sont des métabolites de molécules qui sont déjà interdites depuis un certain nombre d'années. Donc en fait, ces molécules sont présentes et elles vont encore être présentes pendant un certain temps. Et donc moi, ce qui m'a surtout marqué aussi dans la non-efficience, je dirais, des aires d'alimentation de captage, en fait, c'est que on s'attendait à ce que les agriculteurs changent de pratique et tout de suite la qualité de l'eau allait être améliorée. Et il y a beaucoup de personnes du monde agricole, notamment, qui se sont senties un peu fatiguées parce qu'ils faisaient des efforts et que la qualité de l'eau s'améliorait pas. Mais c'est normal qu'elle s'améliore pas. On verra des améliorations dans quelques années. Donc il faut les accompagner de manière durable, voire définitive.
Et oui, parce que ces polluants, il faut le rappeler, sont persistants et qu'il faut se méfier, comme disait Stéphane Mandard, aussi des reculs. On pourrait parler de certains produits qui avaient été interdits, puis réautorisés, puis interdits. Et tout cela ne favorise pas cette santé et publique et de l'environnement. Nathalie Carpel, vos solutions justement et celles sur lesquelles vous travaillez en spécialiste des dépollutions?
protéger effectivement les captages pour les eaux souterraines, c'est une solution. Après, pour les eaux de rivière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, pour quand l'alimentation en eau potable est prélevée à partir d'une eau de rivière, il faut chercher une solution. Les solutions à l'heure actuelle les plus efficaces, ce sont les membranes, hein, mais ce sont des procédés qui sont très coûteux. Et le problème, c'est que on délivre une eau là, dépourvue de quand même beaucoup de micropolluants, hein, à fort taux d'élimination, mais on ne fait que transférer la pollution, c'est-à-dire qu'on se retrouve d'un côté avec de l'eau potable, mais de l'autre côté avec un concentrat qui est chargé en polluants. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce concentrat? Oui. Si c'est pour le remettre dans le milieu naturel, bah on se mord la queue, quoi.
Et oui, et puis on peut préciser que les industriels, par exemple, par rapport au PFAS, ont 5 ans pour en terminer avec les rejets polluants éternels dans l'eau, mais est-ce qu'ils ne risquent pas de trouver un outil de production et rejeter les polluants dans l'air? On n'aurait rien solutionné, là, Nathalie Carpel.
Oui, et puis de toute façon, les polluants, ils vont mettre énormément de temps avant d'être éliminés. Oui. Donc, techniquement, les solutions existent pour les éliminer. Hein. Je ne vais pas dire tous, mais on est presque capable de produire de l'eau totalement pure et qu'il faudrait même doper en composés minéraux pour la rendre potable. Mais les coûts sont faramineux, donc c'est pas envisageable.
Donc la question, c'est qui paye justement? Et la demande ces derniers temps, c'est quand même de demander aux pollueurs d'être des payeurs.
Oui, mais encore une fois, jusqu'où quand même on peut aller, parce que même les pollueurs vont pas pouvoir mettre des coûts faramineux. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est que cette eau du robinet qui est utilisée donc pour la consommation, pour l'alimentaire, en fait, il y a que moins de 5% qui est réellement utilisé pour l'alimentaire. Le reste, ça part, c'est utilisé pour les WC, pour les lave-linges, pour la douche. Donc, voilà. Est-ce que la solution, c'est d'avoir une eau irréprochable pour les WC, pour le lave-linge et pour la douche? C'est aussi une question qu'on peut se poser.
Ah oui.
C'est un autre débat.
Mais... Pauline Rousseau-Guetin, pour vous, mieux protéger, hein, en tant que spécialiste de santé publique, et bien sûr la santé publique c'est aussi la santé de la planète, hein, One Health, c'est d'être dans le préventif et non plus dans le curatif?
Bah oui, parce que on voit bien que on passe notre temps à découvrir et à rechercher des choses a posteriori. Et que on arrive, voilà, ce qui a été souligné, un peu en bout de course sur des traitements, sur des coûts de traitement, etc. Et que le préventif, et donc accompagner des agriculteurs, mettre et accompagner, enfin, donc effectivement les industriels aussi à rejeter des eaux moins polluantes, ça permettrait quand même d'avoir des ressources de meilleure qualité. Et qui dit ressources de meilleure qualité dit aussi un environnement de meilleure qualité. Oui. Et en fait, faut pas oublier que toutes ces ressources, à un moment ou à un autre, elles se jettent à la mer aussi.
Ah oui. Donc il y a aussi une
sorte de continuum terre-mer. Mmh. L'océan est aussi le réceptacle de beaucoup de nos pollutions et de nos déchets.
Bien sûr.
Et l'impact sur l'environnement, alors quand on voit des environnements régressés, ça a un impact aussi sur notre
tout
santé,
à fait.
En mine de rien, notre santé mentale, quand on voit des environnements dégradés ou quand on voit par exemple voilà des espèces de batraciens disparaître à cause d'un contaminant ou des espèces de poissons, ça a un impact.
Et vous avez raison, de le dire, hein. Ce sera le mot de la fin, même si je me tourne aller vers Stéphane Mandard, le mot de la fin c'est aussi que les politiques agissent.
Bien sûr, bon, c'est vrai qu'on désespère un petit peu en ce moment quand même, puisqu'on voit que les décisions qui sont prises ne vont pas du tout dans le bon sens, et au contraire, ce sont plutôt des reculs sur tous ces sujets.
Merci à tous les quatre, Pauline Rousseau-Guetin, Nathalie Carpel-Velletner, Michael Derangeon, je rappelle le titre du livre collectif que vous avez commettre avec les autres, bien sûr, Sol urbain, environnement et santé, repenser les usages, un livre paru chez Quai. Et puis merci à vous Stéphane Mandard, à lire vos articles, enquête sur notre site franceculture.fr et sur
Lemonde.fr.
Lemonde.fr. Informations, bibliographies, podcasts sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.